Pour faire le plein des découvertes musicales et voter pour vos artistes préférés, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 13 mars au 15 mai, que vous soyez en salle ou à la maison, le concours Vitrine vous permet des soirées surprenantes sous le signe de la diversité. Rendez-vous à francouverte.com pour connaître toute la programmation, choisir vos soirées et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca.
Bonsoir et bienvenue à cette ou bonjour. Mais nous, on est le soir, hein? Fait que j'ai toujours l'habitude de dire bonsoir, mais bien le bonjour, bonsoir, peu importe où, d'où vous nous écoutez, de quel multivers vous nous écoutez. Nous sommes les Amazones, je m'appelle Ellie et je suis accompagnée d'Amélie. Comment ça va?
Ça va!
Ça va? Écoute, écoute, en plus, je suis contente, parce qu'on va parler d'un sujet drôlatique aujourd'hui. On va parler de quelque chose d'assez léger.
Ouais.
Puis ça continue, hein, le léger, parce que, tu sais, mon dernier thème était assez funny. Petit suivi sur mon dernier thème, pendant que j'y suis, Disney, après l'émission, là, j'ai pas vraiment joué. j'ai débloqué les personnages par principe, puis là, il y a eu des bugs, ça m'a fait suer, j'ai fini l'événement, puis j'ai fait « j'ai pas retouché depuis ». Mais sûrement que quand il y a des nouveaux personnages... Parce que vois-tu, j'ai presque fini d'avoir tous les bonhommes au niveau 10.
Ah, j'ai tout fait, là, ça y est.
Mais c'est parce que Eric, qui est le dernier personnage qui me restait à avoir au niveau 10...
Que je lui ferais bouffer sa flûte.
Ben moi, je l'écoute pas de son, là. Je joue pas de son, là. Fait que mais Eric, il y a un bug, il veut pas m'accompagner pour aller cueillir des affaires puis genre faire du minerai. Fait que c'est super long, fait qu'il faut que j'y aille tous les jours, lui donner des cadeaux, puis à un moment donné, j'ai fait « ça me tente plus ». Mais bref, écoutez, Dream Valley, stay tuned, à un moment donné, ça va peut-être finir par fonctionner comme il faut. Sinon, à la lutte, c'est tout le temps le fun, WrestleMania, c'est dans 2 semaines. C'était vraiment un nice épisode il y a 2 semaines. J'ai des gens même qui m'ont écrit pour me dire que c'était des belles découvertes, que c'est un univers qu'ils connaissaient peut-être un peu moins et tout ça. Donc, tant mieux s'il y a des personnes qui ont découvert la lutte ou qui ont découvert un intérêt pour la lutte. Tellement de choses qui se passent, c'est fascinant. Donc, stay tuned pour d'autres luttes. Amélie?
Oui?
Aujourd'hui, on va parler d'une série...
En fait, on va parler d'un de mes sujets préférés, des gens qui meurent.
Ben, l'univers du policier, ça t'intéresse beaucoup.
Oui, ça m'intéresse beaucoup, j'adore ça.
Parce que ça faisait longtemps, on a fait un épisode récemment sur les jeux un peu enquête policier.
Exactement.
Fait que tout l'univers, j'ai l'impression, du policier...
Le polar en général est un thème qui m'intéresse énormément. Puis là, j'ai de la chance, je travaille pour une chaîne télé et on fait beaucoup de polars. Donc j'ai l'occasion de voir pas mal de séries et de voir des choses sur l'international, etc., etc. Je suis une personne qui regarde énormément de mystères, d'enquêtes et même tous les genres. Tu sais, j'ai commencé à regarder Carnival Row, pas parce que c'était fantastique, parce qu'il y avait un détective qui résolvait une énigme à l'intérieur, tu vois. C'est vraiment un thème qui m'intéresse parce que je trouve ça comme fascinant à regarder. C'est généralement facile à regarder. Puis t'as pas besoin d'un gros univers et autres. C'est un peu comme, ok, j'ai besoin d'un moment chill où j'ai envie de regarder un truc qui m'accroche à rien. Hey, un petit Hercule Poirot là et d'Agatha Christie. Allez, hop, 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 on va s'installer. L'émission fait 2 heures. Il y a plus rien après, il y a plus rien avant. C'est très bien comme ça.
Puis c'est intéressant parce que tu sais, on parle de, tu sais, tu parles d'Agatha Christie.
Ouais.
Prenons par exemple Sherlock Holmes.
Aussi.
Hercule Poirot.
Yeah.
C'est pas des policiers.
Non.
Des policières, c'est des détectives, tu sais.
C'est ça.
Puis je me demande à quel point le métier de détective is a real thing. Tu sais, je connais des gens, en fait, je connais des gens qui ont déjà fait carrière dans comme plus justement l'univers de la police, de l'armée, des choses comme ça, et qui sont devenus détectives privés.
Ouais.
Mais tu sais, ça ressemble pas du tout à...
À ce qu'on nous vend.
Non, exactement. Puis tu vois, c'est drôle parce que j'aime pas ben la police,
non.
Mais le rôle de détective...
J'adore ça!
Je trouve ça fascinant, mais c'est encore mieux quand ces personnes-là sont à leur compte.
Ouais.
Parce que c'est ça. T'es pas...
Mais tu sais, le film noir des années 50 avec le détective dans son bureau qui boit du whisky, qui parle avec une voix comme ça et autre... J'adore ça! J'ai travaillé sur un jeu comme ça, c'était tellement fun! J'ai adoré ça, il me parle de Wack et Cobb, c'est cliché, mais c'est bon. Là, dernièrement, je me suis acheté sur Steam Chicken Police, c'est exactement ça, c'est un détective, enfin, il fait partie de la police, tout habillé en poulet, hein. C'est un poulet avec des chaudes, etc., etc. Mais tout le jeu est en noir et blanc, ça se passe dans une simili années 50 dans ce genre-là, et je me régale, quoi, c'est comme...
Fait que, mettons, toi, détective Pikachu, t'étais-tu comme...
Ah, détective Pikachu, ça ferait partie de mon délire. Bon, déjà, parce que Pokémon, j'adore, mais en plus, avec le côté détective et tout, c'était vraiment comme... Ouais, c'est des univers que j'adore mélanger.
Détective Pikachu qui va avoir un 2 aussi.
Ah, ça, j'ai pas suivi, en revanche.
Ben, spoiler alert. OK, by the way, aujourd'hui, on va parler donc de l'univers. J'ai appelé ça le Benoît Blanc-verse.
Ouais.
Parce que techniquement, ça s'appelle Knives Out, Knives Out 2, puis il va y avoir le Knives Out 3.
Mm-hmm.
Mais... tu sais, c'est pas vraiment Knives Out, là, tu sais, comme, surtout depuis le deuxième opus, c'est vraiment autour de Benoît Blanc, là, tu sais,
ouais.
C'est comme regarder un Sherlock ou regarder un Hercule Poirot et tout ça.
Ça.
Fait que les titres vont changer, mais c'est Benoît Blanc,
c'est lui le
fil conducteur.
Exactement.
T'sais. Même si c'était pas le cas dans le premier, mais on va y revenir. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Benoît Blanc, détective Pikachu. Ah oui, c'est ça, parce que je disais qu'il allait avoir beaucoup de spoiler dans l'épisode en général. Fait que spoiler sur Détective Pikachu. Moi, je comprends pas pourquoi ils font un 2. Je veux dire, à la fin, Ryan Reynolds, il redevient Ryan Reynolds, là, tu sais. Fait comme, qu'est-ce qui va se passer avec Détective Pikachu 2? I don't know. Mais c'est ça. Fait que major spoiler parce que, ben, on est aux Amazones. Fait que, évidemment, les divulgateurs vont pleuvoir de partout parce que c'est un peu ça l'intérêt aussi d'analyser ces œuvres-là. C'est d'aller jusqu'au bout de la démarche. Puis aller au bout de la démarche, ben, ça veut souvent dire les conclusions des œuvres.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce que c'est, donc, le Benoît Blanc-verse? Ça a commencé en 2019 avec le film Knives Out, que j'ai vu que tout récemment.
Moi aussi.
En fait, parce que 2019, c'était une période où j'allais pas beaucoup au cinéma, puis encore, depuis que j'ai commencé à travailler dans une carrière professionnelle, je vais plus au cinéma parce que je travaille tout le temps, je suis fatiguée tout le temps, puis c'est comme pas possible de sortir. Fait que je l'avais pas vu au cinéma, puis après, il est comme pas sorti sur des plateformes que j'avais, fait que ça a comme été compliqué, mais j'ai trouvé une façon de l'écouter. voilà. Je vais finir ça comme ça. Puis, ça a été complété. Donc, cette série s'est poursuivie, en fait, avec Glass Onion, donc, qui est sorti sur la plateforme Netflix en 2022, et un troisième opus. Est-ce que la date de sortie est là? Là, annoncé pour 2024.
Ooh.
Donc, Knives Out 3. Dans le fond, c'est ces trois films-là du Benoît Blanc-verse, comme je l'appelle, sont réalisés et écrits par Rian Johnson. Est-ce que tu connaissais un peu Rian Johnson?
Absolument pas.
Ben, écoute, il a fait... tu sais, j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait, puis en termes de ce qu'on connaît, là, je vais le dire comme ça. Il travaille actuellement sur une série qui s'appelle Poker Face, qui est sortie sur, je vais te le dire dans un instant, sur quelle plateforme, mais qui met en vedette, donc sur Peacock, cette nouvelle plateforme qui s'ajoute à notre série de plateformes qu'on devrait avoir, mais Peacock n'est pas disponible au Canada, en fait.
Ah.
Mais qui met en vedette l'excellente Natasha Lyonne, qui est aussi une histoire d'enquête. En fait, il y a quand même un certain...
flair.
Mais il y a un certain fil narratif là, qu'on peut revoir. Mais il a fait d'autres films. En fait, il n'a pas fait énormément de films. Mais son premier film, c'était le film Looper. Est-ce que tu as vu Looper?
Oui.
Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Donc, Looper qui est sorti en 2012. Donc, une histoire de policier avec du voyage dans le temps. Très bien fait, avec, dans le fond, Bruce Willis, et dont le jeune Bruce Willis était interprété par, et là, son nom m'échappe, parce que c'est comme ça qui arrive quand j'ai pas tout...
C'est pas Gordon-Levitt, non.
Oui,
c'est
exact.
C'est ça, hein, c'est Gordon-Levitt.
Joseph Gordon-Levitt.
J'allais dire, c'est l'un des amours de ma vie, donc.
Mais qui avait maquillé de façon exceptionnelle, en fait, pour qu'il ressemble à un jeune Bruce Willis, là, c'était vraiment un impeccable travail. Par la suite, bon, travailler sur des épisodes de Breaking Bad, mais a poursuivi sa carrière cinématographique avec l'épisode 8, The Infamous épisode 8 de la série Star Wars, donc The Last Jedi.
OK.
Qui, moi, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas détesté ce film.
Ah, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je l'ai vu chez moi, j'ai pas payé pour le ciné. Ça a peut-être contribué.
Mais tu sais, il y a plein d'affaires dans le film que je comprends les critiques, mais pour moi, c'était pas plus niaiseux.
Je sais pas.
C'était, en fait, il y avait beaucoup d'affaires qui fonctionnaient pas, puis que je comprends que ça agaçait des gens, mais il y avait beaucoup de choses que je crois qui étaient excessivement intéressantes qu'on essayait d'installer dans la série. Une certaine profondeur qui s'est toute fait wiper par l'épisode 9. Là, pour moi, si quelqu'un dit que l'épisode 2 est pire que l'épisode 9, je remets beaucoup en question ses goûts, mais tu sais, tous les goûts sont dans la nature, c'est correct.
Ben, c'est pareil. Moi, je regarde Star Wars un peu comme je regarde n'importe quoi d'autre. Je suis pas spécifiquement attachée à la série et autres. Moi, si le film me vend des piou-piou et puis que c'est joli à regarder, je suis satisfaite.
Mais il y avait quelque chose que je trouvais dans la volonté d'amener le canon plus loin,
ouais,
de sortir de la question du manichéisme que je trouvais excessivement intéressante dans le film. Mais voilà, ça n'a pas eu le succès. Pourtant, on fait confiance à Rian Johnson parce que, fun fact, il va réaliser et co-écrire, il va réaliser le prochain film de Star Wars.
Oh.
Donc, le Untitled Star Wars Trilogy épisode 1.
OK.
Qu'il va diriger. Et il est déjà sur l'écriture de toute la trilogie.
OK. Benoît Blanc avec un sabre laser.
Benoît Blanc avec un sabre. Pourquoi pas?
Hey, je serais donne pour ça, moi!
Mais je pense qu'on sait pas encore où va se placer la troisième trilogie de Star Wars. Mais avec son écriture et ses intérêts, moi, je le verrais beaucoup travailler sur cette fameuse période où l'Empire... Tu sais, la période entre le 3 et le 4, là?
Oui.
Quand l'Empire a repris tout le contrôle, mais que, dans le fond, ben c'est ça, là, cette espèce de 20 ans-là...
Benoît Blanc, un sabre laser, un crime dans l'Empire, moi, je suis done avec ça!
Mais for real, oui, moi aussi, vraiment beaucoup. Mais donc, revenons, et donc, c'était juste pour vous donner un petit topo, parce que deux autres films, donc ça fait juste 4 films, là, c'est pas beaucoup. Là,
non,
mais
c'est pas des petits films non plus.
C'est
là.
Pas des petits films non plus, exactement. Donc, on poursuit avec Knives Out, qui a été quand même un succès public et critique,
ouais,
qui a été très bien reçu, qui a comme un peu fait le buzz à l'époque, et donc qui a été ensuite signé par Netflix. Puis ce qu'on disait déjà, c'était Netflix a signé pour des films à la condition qu'ils mettent en vedette Benoît Blanc. C'était vraiment Benoît Blanc qu'on voulait voir à l'écran.
Mm-hmm.
Puis ça paraît, je trouve. Parce que quand on compare le film de Knives Out, ou finalement, Knives Out, si on regarde un peu le film, oui, effectivement...
Il est là, mais c'est un peu nous. Il est, le spectateur de ce qui se passe.
Exactement. Tu sais, il est flamboyant, il est super agréable à voir, puis je parle pas juste parce qu'il est beau, mais dans le sens... c'était même pas vers là que je m'en allais, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, on était déjà attachés à ce personnage-là.
C'est ça. C'est lui qui nous donnait une voix dans le côté où, OK, là, il faut qu'on ait quelque chose pour faire avancer. Et c'est lui qui venait en mode, OK, mais là, qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est ça. Alors que pour moi, mettons, la protagoniste de Knives Out, c'est beaucoup plus Ana de Armas, donc,
oui,
qui joue le rôle de Marta Cabrera,
oui,
qui est dans le fond cette jeune femme qui travaille comme infirmière auprès d'un de Arlen Trumbay, joué par Christopher Plummer. Christopher Plummer, que, écoute, Mélodie du bonheur, tu me gagnes déjà, et qui était excellent. Je m'étais amusée à regarder un peu, quand on écoutait le film, je me suis un petit peu amusée à regarder la carte, donc pas la carte, là, mais la filmographie,
mm-hmm,
de Christopher Plummer. Puis j'étais comme, ce gars-là a juste jamais arrêté de travailler, mais il a fait beaucoup de choses qu'on n'a pas vues.
Ouais.
Mais c'est vraiment comme... Tu sais, ces acteurs, tu sais, t'as des acteurs comme Daniel Day-Lewis qui, comme, choisissent ses affaires avec, comme, tu sais, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent au bout de leur démarche et tout ça. Puis je pense que Christopher Plummer, c'était vraiment plus le « moi, je travaille, c'est mon métier, puis il faut que je travaille, puis je le fais, puis tout ça », tu sais. Fait qu'il y a énormément de credits, là. C'était quand même assez impressionnant. Mais pour revenir, donc, à Marta Cabrera, qui était, donc, cette infirmière, qui finalement, quand le film commence, il y a déjà un mort. Donc, notre fameux Christopher Plummer.
En fait, on démarre directement dans l'enquête, vu qu'on est directement dans le moment d'interview avec les...
Ben, c'est ça, la première scène du film, c'est la découverte du corps.
Ouais.
Puis, tout de suite après, comme tu dis, c'est les entretiens que, dans le fond, le policier, dont lieutenant Elliot, donc, a ouais. avec les personnes. Puis, Benoît Blanc est comme en arrière-plan, puis écoute. Puis, finalement, un peu à la Sherlock Holmes, c'est le policier qu'on a engagé pour quand les policiers ont de la misère.
C'est un peu ça.
Fait que voilà, mais dans le fond, on découvre assez rapidement que Martha est... se croit du moins la coupable, et c'est ce que le film, ben je pense qu'assez rapidement on comprend que c'est pas elle la coupable, tu sais, comme
c'est ça, il y a comme, c'est comme trop violent que ce soit elle, en fait c'est comme trop dans ta face que si c'est elle et que c'est un jeu du chat et de la souris et qu'elle essaie de s'échapper de ce qui se passe.
Bah, parce que tu vois, j'ai pas écouté, mais tu sais, c'est le genre d'affaire qui fait partie d'une espèce de culture générale, tu sais, Columbo.
Oh my God, Columbo! Mais c'est toute mon enfance.
Un jour, je les écouterai, mais tu sais, ouais. comme, en tout cas, ça, c'est pas tombé dans mon radar quand j'étais comme, justement, quand ça jouait à TV. Mais tu sais, Columbo, c'était un peu ça, là. C'est-à-dire qu'on ouais. sait très rapidement c'est qui.
Ben, en fait, on sait pas très rapidement c'est qui. C'est genre, si tu démarres avec le coupable et tu vois comment il fait pour tuer la personne, tu le vois commettre son crime et ensuite, tu le vois essayer d'échapper à Columbo. Columbo, il est pas, enfin, il est le héros de la série. Mais le véritable héros de chaque épisode, c'est le criminel.
Moi,
et
je
le
comprends.
But, c'est de savoir quel détail il a oublié qui fait qu'il se fait attraper par Columbo.
Ben, ça, puis ça me fait un petit peu penser à Faits divers. Est-ce que t'as écouté Faits divers, la série québécoise?
Non, ça par contre, j'ai...
Je vais te donner mes accès à tout.tv, là, t'y réécouter ça, là, c'est ben bon. Mais c'est exactement ça. On, dès le début du premier épisode, on sait c'est qui, on sait c'est quoi, on sait comment, mais on découvre un... Mais le reste des épisodes, c'est on suit à la fois les criminels qui essaient de cacher leur piste, puis on découvre quand même des fois un petit peu plus de lore autour de cet univers criminel-là. Puis en parallèle, on suit les policiers de Mascouche essayer de pogner. C'est très keb, là, essayer de pogner donc les criminels. Mais dans Knives Out, c'est comme tu dis, c'est tellement gros que c'est elle. Parce que, dans le fond, elle inverse les bouteilles qui servent. Elle croit qu'elle a donné... elle croit qu'elle donne un certain médicament, mais finalement, elle donnerait un sédatif. Et s'étant trompée de bouteille, elle croit que, dans le fond, elle l'a assassiné parce qu'elle a donné la mauvaise... La mauvaise...
Le mauvais médicament, quoi.
Ben, comme la mauvaise dose.
C'est ça,
parce
exactement.
Parce qu'elle a dit, ben, d'habitude, je te donne un milligramme. Je m'en rappelle plus c'est quoi, mais mettons, habituellement, je te donne un milligramme, puis je te donne 100 milligrammes. C'est sûr que ça va te tuer, bla, bla, bla. Mais tu vois, j'avais vu un peu venir que c'était pas elle à cette scène-là.
Ouais.
Parce que je me suis dit, bon, ben peut-être que c'est moi qui capote, peut-être que c'est moi qui comme capote sur ce genre de détails-là, mais habituellement, une injection, c'est la méthode pour prendre une médication quelconque la plus rapide. Mm-hmm. Fait que le fait que Christopher Plummer... 3 minutes après avoir pris son médicament, était encore capable de parler, était encore capable d'avoir une conversation avec elle puis de lui donner des indications. J'étais comme, il n'a pas réellement reçu ce médicament-là. C'est clair qu'il y a une affaire de twist que finalement, elle pensait que, mais finalement non, mais et c'est un peu ça le punch. Là. Finalement, ouais. C'est quelqu'un d'autre qui a inversé les bouteilles. Et Benoît Blanc dit, t'es tellement une bonne infirmière que même si les bouteilles ont été inversées, t'as reconnu le poids du médicament au toucher. Fait que c'est pour ça que tu t'es inversé dans l'inversement, là, bref. Là.
C'est ça, t'es tellement bonne que les yeux fermés, tu lui aurais donné le bon médicament.
Exactement, tu sais. Et je sais pas si c'est crédible, j'ai aucune idée, je connais pas ça, l'infirmerie, mais c'est ça. Fait que tu sais, pour dire qu'on voyait venir, moi je l'avais vraiment vu venir rapidement, le punch, mais savoir c'était qui? Parce que je trouve que dans la... Je sais pas ce que t'en penses, qu'on va quand même comparer, c'est pas du tout le même ton.
C'est pas le même ton du tout. C'est beaucoup plus...
On parle bien sûr de Knives Out et Glass Onion, qui est la suite.
Ça.
C'est pas du tout le même ton, non. C'est pas du tout le même...
Glass Onion, il y a de la frivolité que tu retrouves pas réellement dans le premier.
Donc, effectivement.
Le premier, il est un peu plus stressant quand même. Il y a un peu plus comme... Parce que tu t'attaches à elle, tu te dis, non, elle a l'air trop douce, trop gentille, trop nunuche un peu, perso.
Mais c'était comme mon feeling quand j'écoutais Knives Out? Mm-hmm. J'avais l'impression de voir le film Clou.
Oui, d'ailleurs, une fois qu'on a fini Glass Onion et puis qu'on a fini Knives Out, j'ai été chercher Clou pour le montrer à mon compagnon en mode « Oh my God, tu vas adorer ça, c'est exceptionnel !» Et effectivement, il a trouvé ça très très bon. Et apparemment, il y a un nouveau Clou qui devrait sortir.
Ah ben là...
Il parle d'en refaire un nouveau. Et il y a une part de moi qui est comme « Pourquoi ? Il est très bon, celui des années 80, snap !»
Ouais, mais parce qu'on refait tout, là.
Ah.
Attends, clou de movie. Mais c'est ça, mais effectivement, il y avait cette notion-là. Je trouve que les films n'avaient pas du tout le même ton, non. Mais n'avaient pas du tout aussi la même volonté. Je trouve que il y avait une certaine crédibilité jusqu'à un certain point. Tu sais, les gens commençaient peut-être à devenir moins pertinents comme étant la personne coupable.
Ouais.
Mais je trouve que le coupable, même si je me suis un peu laissé aller dans Glass Onion en n'essayant pas de trouver c'était qui le coupable, là, mettons, ouais. Là, mais je trouvais que dans le premier, il y avait beaucoup plus...
Ben, le premier suit un peu plus le genre du « whodunit ». Qui est, je sais pas si t'as vu le film Coup de théâtre, il est sorti en septembre 2022 aussi.
Non, je l'ai pas vu. Coup de théâtre.
C'est Coup de théâtre, c'est un
film français ou...
Non, c'est un film, je crois qu'il est britannique, américain, quelque chose comme ça. C'est en fait, l'histoire, c'est grosso modo une pièce d'Agatha Christie qui est adaptée au théâtre. Et les gens se font assassiner. Mais le film est moyen, honnêtement, il est moyen. Mais le film démarre avec un personnage qui parle, qui explique c'est quoi un whodunit et pourquoi il déteste ça, et qu'il est en mode « Ouais, mais en fait, ces films-là, c'est toujours pareil. Tu réunis un cast de nombre de personnes dans un huis clos. »
Donc, le film en anglais s'appelle « See How They Run ».
C'est ça. Il dit « Tu réunis les gens dans un huis clos avec tous leurs personnalités chacune, et puis un qui est extrêmement détestable et détesté par tout le monde, et tout le monde a une occasion de l'assassiner, et le but c'est de savoir who done it. »
Ouais.
Puis, et la manière dont le premier Navzot fonctionne, c'est exactement ça, c'est
tout le monde a une bonne raison.
Tout le monde a une très bonne raison de l'assassiner, et ce qui est important, c'est pas
ben,
tellement...
Bonne raison, c'est-à-dire tuer pas les gens, mais comme... Tout le monde
un bon motif.
Tout le monde aurait un motif, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Puis, le but de ce genre de film, c'est pas tellement de se dire « Ah ah, c'est cette personne l'assassin ». Non, en fait, réellement, ce genre, c'est de voir les dynamiques entre les personnages. Ce qui est intéressant, c'est « Ok, il y a cette personne-là qui est exécrable pour tout le monde, et puis il y a une personne qui craque et puis qui finit par la tuer ». Et ce qui est bon, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi les gens ont les relations qu'ils ont à l'heure actuelle. Et Agatha Christie fait beaucoup ça. Tous ces Hercule Poirot sont toujours pareils. Hein. Quand tu regardes bien, il arrive dans un endroit, des fois il est invité, des fois il est là par hasard, etc. Il tombe sur des groupes de gens qui vivent ensemble, il y en a un qui meurt, et il passe son temps, en fait, regarder les gens et à voir comment ils interagissent les uns avec les autres pour ensuite finir par dire « Hey, c'est lui qui l'a suivi ».
Ben, tu vois, c'est drôle parce que j'avais demandé, j'ai conseillé Glass Onion à ma mère qui a lu tous les Agatha Christie comme 40 fois, là, tu sais, c'est le genre de lecture de comme, tu sais, ces livres qu'on relit parce qu'à un moment donné, ça devient comme
la détente. Moi, c'est une
petite
lecture d'été.
Exactement, puis j'ai demandé comme, est-ce que t'avais vu voir le punch de Glass Onion très vite? Puis elle dit, ben oui, j'ai trop lu Agatha Christie, je les vois toutes venir, ces punchs-là.
Moi, j'ai beaucoup comme ça. Dernièrement, j'avais regardé sur Prime la série espagnole Private Affair.
Okay.
C'est avec Jean Reno, il est le majordome à l'intérieur, et puis c'est une détective, enfin c'est la fille d'un policier qui n'est pas prise au sérieux, parce que c'est dans les années 50 qui fait l'enquête. Puis il y a 10 épisodes, à l'épisode 3, j'étais déjà le coupable, quoi. Puis mon copain arrivait à l'épisode 8 en mode « Oh my God, c'est lui !» J'étais comme « Bah, t'as 5 épisodes de retard hein. !»
Mais c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, il y avait justement la notion de... Tu sais, en fait, mais je trouve que malgré le fait que je savais pas... Tu sais, que j'ai pas essayé de trouver le punch, parce que je trouvais que Glass Onion... En fait, je cherchais pas à trouver c'était qui... Parce que je trouvais qu'il y avait trop d'affaires intéressantes à essayer de trouver c'était quoi, mais c'était pas le coup. Je sais pas ce que tu penses que je veux dire. Parce qu'en fait, on découvre qu'il y a un crime.
Ouais.
Puis au moment où est-ce qu'on y a un... En fait, il y a un crime dans le film.
Oui.
À la moitié du film.
C'est ça.
Suivant ça, il y a un deuxième crime.
C'est ça.
Suivant ça, on découvre que finalement, le deuxième crime, c'était pas un vrai crime. Parce qu'il y a eu un crime avant le film. En tout cas, vous me c'est suivez, ça. Là. Mais ça crée justement cette espèce de notion-là. Puis tu sais, comme justement, tu sais, la question, tu sais, comme Benoît Blanc, pour vous mettre en contexte de Glass Onion, là, mais allez l'écouter avant de nous écouter, là, s'il vous plaît. Là, même si vous êtes des abonnés de Netflix, je veux dire, il y a les internets. Mais c'est ça, mais dans Glass Onion, dans le fond, ce que je trouvais vraiment intéressant, en fait, c'est le fait que c'était un film qui se déroulait en mars 2020.
Oui.
Ou en mai 2020, je crois.
En tout cas, ça se passe pendant la pandémie.
Mais vraiment, là, tu sais, au cœur du confinement.
Ouais.
Puis, il y a cette bande de gens parvenus, qui est un peu proche de Knives Out aussi, là, où Benoît Blanc arrive dans un...
Bah, des gens privilégiés, clairement, qui ont les moyens de vivre comme ils veulent et qui s'en foutent un peu de comment... des petites gens, si je puis dire.
Puis, c'est ça. Puis, tu sais, dans Knives Out, c'était de la richesse, mais...
Mais c'est de la richesse familiale avec le côté héritage très
Ouais, c'est ça, tu sais, mais c'était de la richesse, mais là ça n'a rien à voir, tu sais, c'est comme c'était Elon Musk le deuxième.
Oui,
là.
Le deuxième c'est clairement, enfin il l'a dit dans une interview que non c'était pas lui, que il avait été inspiré par tous les gens du même genre, mais je veux dire
mais c'est ça,
t'sais. Quand le film est sorti, Elon Musk était en mode pétage de câble aussi en parallèle, tu sais, c'est comme c'est dur de pas coller les deux ensemble.
Exact, on parle d'un niveau de richesse vraiment plus élevé, puis
ouais,
toutes les personnes, tu sais, contrairement mettons à Marta qui est dans, mais c'est un peu la même chose parce que tu vois dans Knives Out, au début on veut nous faire croire, mais je pense que rapidement on sait que c'est pas elle là, mais que c'est Marta qui est comme cette femme issue de l'immigration dont les parents, la mère est sans papier, qu'elle se fait menacer par ses anciens employeurs comme de, parce que finalement dans le fond l'héritage du décédé lui revient tout à elle,
ouais.
Mais il y avait cette notion-là de comme, ben, c'est la seule personne qui provient d'un milieu populaire, qui provient même d'un milieu pauvre, oserais-je dire, puis qui travaille fort pour ce qu'elle veut obtenir et tout ça. Alors que là, quand on se projette dans Glass Onion, c'est un peu la même chose, t'sais, c'est-à-dire ouais. que dans Glass Onion, il y a, au début, il semble y avoir personne qui provient du milieu non privilégié,
ouais.
et il y a une twist, puis dans la twist, on découvre que justement, Benoît Blanc, un peu comme avec Martha, va aider le personnage de, et là, je vais retourner voir son nom. Donc, va retourner voir, bon, ça dit Andy
ouais.
Brown, mais sa sœur, elle s'appelle comment? Voyons. Laquelle qui est laquelle?
Je sais plus.
Ah, mais c'est sûrement pas écrit parce qu'ils veulent pas dire le punch.
Ouais, c'est ça. Mais je sais plus le nom de sa sœur, mais enfin, c'est comme, pour moi, c'est la même, enfin, c'est comme plus ou moins la même personne.
Mais sa sœur jumelle, là, bref, là, qui est comme, tu sais, dont le nom...
Qui est professeur d'école, ça, j'ai retenu.
Oui, qui est enseignante genre dans une école primaire ou secondaire. Là,
quelque chose comme ça, ouais.
Qui fait pas une grosse job et non. tout ça, mais qui...
Enfin, fait une grosse job, je veux dire, professeur, mais non, je mais veux dans dire, donc pas beaucoup d'argent, ouais.
Oui, t'as raison, Amélie. Qui fait une grosse job, mais qui fait pas les gros salaires.
Donc, exactement.
Donc voilà, et qui, finalement, ben, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on revient au début de l'explication. Oh, la pandémie est à son paroxysme, dans le sens de confinement. Les gens, on voit même, donc, des personnes, le compagnon de Benoît Blanc, qui fait du pain, parce que, comme, qu'est-ce que tu veux faire, esprit, on fait juste faire du pain, là, parce que, comme, on est en confinement. Et, Benoît Blanc est la dernière personne qu'on voit d'une série de personnes qui reçoivent une espèce de boîte, une espèce de boîte de un peu à la The Room ou
ouais, une boîte d'énigmes
là, tu sais, justement où est-ce qu'il faut que tu répondes à ces puzzles là, puis une fois que t'as fini les puzzles, ben t'as accès à la carte.
Ouais.
Et à la carte d'invitation pour aller donc passer du temps sur une île paradisiaque qui appartient à Elon Musk des pauvres, joué par Edward Norton. Benoît Blanc reçoit la dite boîte, au début on croit du moins qu'il reçoit la dite boîte, et donc se présente, mais semble non attendu.
C'est ça.
Puis ça, tu vois, c'est ça, c'est parce que c'est toutes ces affaires-là que c'était comme... OK, là, pour l'instant, il n'y a pas de crime. Benoît Blanc est invité là, puis... Est-ce que c'est vrai qu'il n'était pas entendu? Est-ce que c'est encore une histoire de comme, je t'ai envoyé une invitation parce que je vais mourir, puis genre, je voulais comme.
Ouais.
Parce que c'est un peu ça qu'on découvre que ben, dans le fond.
Ben, c'est parce qu'en fait, il organise une soirée thématique.
Meurtre et mystère.
Meurtre et mystère, c'est ça. Puis.
Mais voilà. Fait que là, Benoît Blanc est comme bien énervé. Puis je trouvais ça intéressant parce que la perspective. Puis tu vois, il y a comme ce côté-là des personnes. Ces personnes obsessionnelles-là,
ouais.
de type détective, qui dit « Je m'ennuie Oui. Puis là, je suis en confinement, je peux pas le faire, ce qui me plaît, donc je m'ennuie. Qui était un thème très récurrent dans l'univers de Sherlock, la série télé britannique.
Hercule Poirot, c'est hallucinant aussi. Il y a des moments où il est totalement en dépression parce qu'il ne peut pas faire. Et puis là, il le dit lui-même, je ne peux pas faire fonctionner mes petites cellules grises.
Mais c'est exactement ce que Benoît Blanc vit, là.
Exactement.
Où est-ce qu'il est comme en dépression dans son bain, en train de jouer à Among Us avec d'autres personnes.
Et de perdre en plus.
Et de perdre. Puis, c'est cette espèce de notion-là que je trouve quand même rigolote, où est-ce qu'il dit « c'est tellement simple que c'est ennuyant, je veux des choses compliquées ». Et qui se fait amener, dans le fond, sur un plateau d'argent par ce qu'on va découvrir à la moitié du film, la sœur jumelle d'une personne décédée, qui lui dit, dans le fond, « ben ma sœur est morte, puis faut que c'est pas encore annoncé dans les médias, puis il va falloir que tu m'aides à comme résoudre le meurtre de ma sœur, tu sais. Mais voilà.
Mais le film est super bien construit parce que je veux dire, le film s'appelle Glass Onion. C'est littéralement, je veux dire, le film est la métaphore de son propre thème.
Oui, parce que tout est en vue.
Exactement.
On voit tout. Puis tout est disponible. C'est juste que je pense que dans le fond, c'est ça. C'est que le film, c'est que... Mais il y a quand même beaucoup de couches.
Énormément de couches, puis t'as toujours l'impression que c'est super complexe. Puis moi-même, tu sais, je recherchais la complexité, parce que c'est comme eux, si je peux pas faire fonctionner en mode « Ah, mais dans ma tête, c'est comme « Mais non, ça marche pas, en fait. Toutes leurs couches, ça fonctionne pas et autres. » Puis c'est à partir du moment où tu commences à les enlever, où t'es comme « Ah! »
Mais quand tu enlèves les couches, que tu fais comme « Ah, mais c'était pas compliqué.
» C'est ça.
C'est une des scènes, en fait, la scène où Benoît Blanc... finit par comprendre tout, puis qui est comme, oh mon Dieu, c'était tellement stupide que j'arrivais pas à voir ce qui était devant moi, c'était tellement stupide. Et là, Edward Norton de dire, clever, il fait, no, just dumb. C'était tellement cave que comme, j'ai trouvé ça tellement drôle, cette espèce de punch-là, que finalement, cette personne-là qui... Un peu comme, tu sais, la question de l'homo economicus, là, donc, tu sais, justement, c'est cette notion-là que l'homme est, avec un grand H, serait fait pour, comme, être innovateur puis créer des choses, mais que c'est comme un mythe, là, dans le fond, que, comme, il y a personne qui ne provient de rien, tu sais, la société participe au fait que tu es capable et ton privilège et ton accès à la richesse fait que tu es capable de... bâtir des choses, tu sais, fait que l'innovation n'appartient jamais qu'à une seule personne. Mais là, c'est poussé à tout l'extrême où finalement cette personne-là qui possède des choses incroyables, puis que tu sais, je veux dire, il y a une plateforme qui ne sert qu'à montrer son auto, tu sais, puis qui a la Mona Lisa, qui l'a loué pour juste show off à ses amis et tout ça. Ouais. Mais que dans le fond, cette personne-là n'a jamais rien inventé. Ouais. Et que dans le fond, tout son crime est basé sur le fait qu'il a toujours copié et il a toujours pris les idées de ses crimes ou de comment aller plus loin dans son crime à quelqu'un d'autre qui a bâti sa richesse comme ça, puis qui va finalement faire sa déchéance comme ça aussi. Là. Ouais. Fait qu'il y avait vraiment une notion, mais tu sais, c'était un thème qui t'avait comme appelé, là, ça, l'espèce de la parodie des ultra-riches ou de rire des riches ou de rire
Il y avait cette parodie-là. Pour moi, il y a aussi une parodie un peu du côté, tu sais, justement, de... En fait, le côté où oh, le crime est complexe et puis il faut que ça se soit passé pour que ça se soit passé et ça, ou là c'est juste, non, il était juste là, il avait un flingue, il a tiré dessus. C'est comme, c'est quelque chose que généralement, ce genre de films, ils font pas ça. Ils ont besoin d'une narration où tu vois le méchant qui a méticuleusement prévu son crime, qui sait exactement quand mettre le poison à tel moment pour essayer de justifier autre que là. Il était comme, non, mais il y a rien de tout ça. Il est juste comme con. Il est arrivé, il lui a donné du poison, elle est morte, il est reparti. C'est tout, tu sais, comme...
puis tu vois, c'est des fois, c'est des choses... tu sais, le fait d'être surpris dans un film, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que, évidemment, qu'on veut pas voir du remâché, mais il faut respecter les codes. Puis je trouve qu'il y a comme une mince limite à pas dépasser. Tu sais, comme... La série Sherlock, pour moi, c'est vraiment une belle démonstration de ça.
Ouais.
Tu sais, c'est-à-dire que Sherlock, plus ça allait, plus il fallait que ça soit tu t'y attendais pas. Mais c'est ouais. comme, mais à un moment donné, pour que je m'y attende pas, t'as pas le choix de me dropper des informations que j'aurais jamais pu deviner parce que tu m'y as pas donné accès avant. Fait que t'as pas respecté, selon moi, les codes de mm-hmm. bâtir ce genre de truc-là. T'sais, tu peux pas, tu sais, je comprends que c'est prévisible des fois, mais c'est prévisible parce que pour que le polar fonctionne ou que l'enquête criminelle fonctionne en tant que œuvre littéraire ou œuvre cinématographique, il faut que tu comprennes le chemin qui a été pris. Fait que, mm-hmm. tu sais, il y avait des affaires dans Sherlock que c'était comme, vers la fin, là, surtout, là, que c'était comme, ah ben, oui, je suis surprise, parce que dans le fond, tu m'as sorti un lapin d'un chapeau, puis c'est comme ça que c'est ça peut ça. Fonctionner.
C'est l'une des choses que j'aime aussi beaucoup, parce que Hercule Poirot, dans le livre, la série qui existe et tout, il y a des moments où il va au théâtre, il regarde des gens faire des crimes policiers, et c'est le premier à être en mode, mais c'est n'importe quoi, ça peut pas être lui le criminel, jamais une seule fois vous nous avez donné les indices mm-hmm. qui indiquent que c'est lui, c'est n'importe quoi votre enquête. Et y a vraiment comme une critique de ça. Et Agatha Christie elle-même, à la fin, elle commençait même à en avoir un peu marre de son propre personnage, qui était comme toujours aussi un crime, c'est comme ça que ça doit se passer, et tu peux pas genre ne pas donner les indices, qu'elle avait fini par créer un autre personnage qui était une auteure qui créait des films policiers pour s'engueuler avec lui à l'intérieur de ses romans. Parce que justement, il y a une espèce de rigidité qui est souvent présente, et puis que ben quand tu fais des séries ou des longues collections, t'as toujours besoin d'aller un petit peu plus loin. Ouais, exact. Où tu poses les choses. Puis là, t'es quand même... Bah là, t'as 3 millions d'informations, puis tout est là et autres, et au final, c'est juste comme... Straight to the point.
Ben, exactement, tu sais, puis c'était fascinant. À un moment donné, j'avais eu un cours de cinéma d'horreur, puis le professeur disait, c'est pas une question de punch, parce qu'un bon film d'horreur, l'horrifiant vient du fait que tout était là pour que la personne ne tombe pas dans le piège horrifiant. Puis toi, en tant que spectateur ou spectatrice, tu le vois. Puis t'es comme, mais non, va pas là. Mais la personne y va quand même. C'est la fatalité qui fait qu'il y a l'horreur. Donc, c'est correct dans un film d'horreur de ne pas être surprise. Parce que c'est ça qui fait peur. C'est de faire comme, oh mon Dieu, cette personne-là avait tout devant elle ou... Puis elle a quand même tombé dans le piège. Puis comme, est-ce que ça pourrait m'arriver à moi d'être aussi clouless devant tout ça? Puis c'est ça qui fait peur. Puis ça m'avait beaucoup fait re-questionner, en fait, mon espèce de volonté quand je regardais des œuvres, même des œuvres policières. À quel point est-ce que, dans le fond, je devenais pas mauvais public quand je commençais à insister que ben c'était prévisible? Puis ça m'a vraiment fait remettre en question cette perception-là des œuvres où comme, c'est pas grave si c'est prévisible, si c'est logique, si l'histoire est bien racontée, ce sera pas grave si je l'ai vu venir, même dans un cas d'un enquête. Écoute,
moi, je suis le genre de personne, j'aime beaucoup les polars, hein, mais si je lis n'importe quel polar, je commence par la dernière page.
Pour vrai?
Pour vrai. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, je sais, c'est lui qui est criminel. Ok, c'est bien, j'ai pas de problème. Maintenant, je veux savoir comment on le coince. C'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il a fait ça, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je me rappelle en plus, j'ai plein de choses comme ça. Je suis pas quelqu'un qui j'aime pas quand on me spoil quelque chose, mais ça me dérange pas d'aller me spoiler moi-même. Je vais regarder des séries avec un wiki à côté de moi, puis je vais aller lire tout ce que je peux trouver.
Ah, ok.
Parce que oui, le wiki va me donner l'information de ah, y a ça qui va se passer à tel épisode, mais il va pas me dire pourquoi ça se passe.
Mais tu vois, moi, j'aime pas ça faire ça parce que j'aime ça. J'aime le fait de soit ne pas avoir été surprise, puis de faire comme, oh, OK, j'ai pas été surprise, ou je l'ai été, whatever. Mais j'aime beaucoup. Je veux savoir quand je fais comme un Hercule Poirot de ce monde, puis que je fais comme, c'est pas logique. Pourquoi tu m'as rendu là? Puis j'ai l'impression que si je vais lire avant, ben je vais me laisser influencer par le fait ah ben je connais la conclusion, fait que je vais aller voir tout, je vais voir toutes les indices, mais je suis comme tu sais, comme après je pourrais re-regarder le film ou la série ou peu importe, ou relire le livre, mais on dirait que c'est comme je veux commencer par voir est-ce que ce que tu essaies de me conter, c'est-tu logique. Puis ça me faisait j'ai complètement oublié. Ah oui, ça me fait penser à quelque chose. C'est parce que aussi c'est que ces films là il faut qu'ils tourne, puis c'est un peu ce que tu expliquais avec le concept du whodunit, tu sais.
Ouais.
Ces films-là doivent tourner autour de plus loin que la question du punch.
C'est ça.
Puis il y a des films comme... Un des films qui m'avait beaucoup choqué, pas choqué dans le sens horrifié, mais qui m'avait beaucoup dérangé, qui m'avait gossé, là, je vais le dire comme ça, là, à défaut d'avoir un meilleur mot. Mais c'était le film Shutter Island, parce que j'avais pas lu le livre.
OK.
Shutter Island.
Ouais.
Et j'étais allée voir au cinéma avec ma mère qui avait vraiment beaucoup aimé le livre. Donc c'est le film avec Leonardo DiCaprio là, qui se passe dans un, en tout cas whatever. Là,
j'ai pas été le voir parce que ma mère était revenue du cinéma et qu'elle m'avait donné tout le punch et autres en mode c'était nul.
Mais okay. J'avais vu venir le punch à 15 minutes du film.
Ouais.
Puis ça m'avait, mais genre le film, il y avait plein de trucs que le film a installé au bout des 15 premières minutes. J'ai fait OK, c'est ça le punch.
Ouais.
Là, je vous le dis pas, là, allez l'écouter là, si vous voulez. Là, c'était pas nécessaire que je vous le dise aujourd'hui. Mais j'étais comme OK, c'est ça le punch. Puis c'était effectivement ça le punch. Puis j'ai fait comme mais le film ne tourne qu'autour du punch. L'intérêt du film n'est qu'autour du punch. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, oui.
Fait que dans ce cas-là, ça m'a fâché de comprendre d'avance. Parce que j'étais comme OK, mais le film n'essayait pas de nous introduire autre chose que tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était, tu sais. Puis. J'étais comme, ben oui, je savais que c'était ça que c'était. Comme, c'était pas intéressant, tu sais.
Ouais.
Alors que Knives Out ou Glass Onion, pour moi, va plus loin que ça. Justement, peut-être par la comédie, la critique sociale, la qualité des dialogues, la qualité des personnages, les dynamiques, mm-hmm. comme tu dis. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent dans ce sens-là d'écouter ces films-là. Puis c'est pas grave si tu le vois venir parce que
non.
Le but, c'est que ça soit divertissant, au final.
Mais c'est ça. Le but, c'est le divertissement. Le but, surtout Glass Onion, c'est vraiment de rire. Parce
qu'il
y a vraiment beaucoup de... Où c'est juste de le... C'est tellement comme...
grossier, grotesque, ouais.
Grotesque, c'est ça, ouais. Qui arrive à un moment, c'est comme ça, a aucun sens son truc, puis t'es juste obligé de te moquer, c'est comme... Puis non, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je le fais pas sur tous les films, il y a des films, tu sais, je vais pas aller voir la fin, parce que bon, quel est l'un... Les films, je le fais pas, en fait, c'est beaucoup les livres que j'aime bien aller voir la fin. Principalement parce qu'une fois, j'en avais lu un, j'avais pas été lire la fin, et le personnage que je préférais était le criminel, et je l'ai très mal vécu. Mais bref, mais... C'est ça, c'est la dynamique entre les personnages, puis particulièrement dans Glass Onion, est vraiment exceptionnelle. Parce qu'au final, ils sont tous là à se détester les uns les autres.
Ouais.
Ils n'ont pas de réel sentiment d'attachement.
Uh-huh.
Puis ils sont tous là parce qu'ils sont avares, quoi. Ils ont besoin de son argent, de son influence, pour pouvoir eux-mêmes se mettre plus haut dans la vie. Et puis toi, tu es juste là avec Benoît Blanc à tous les regarder et être en mode « Mais... » Mais pourquoi?
Mais c'est ça, hein? C'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment la notion que, comme, ces gens-là n'ont pas. Si c'était pas du fait qu'il y avait comme cette espèce de. Dans le fond, c'est vraiment une question de codépendance.
Ouais.
Parce que je pense que le personnage d'Edward Norton est dépendant au fait de contrôler un peu la vie de ces individus-là, puis d'avoir une emprise sur leur vie, puis eux autres sont dépendants de ses moyens, de ses capacités. Mais comme tu dis, probablement qu'après ce film-là, après les événements du film, probablement que ces gens-là se seront jamais revus. T'sais.
Oh, totalement. Je veux dire, ils s'aiment pas, ça se voit. Ils sont pas capables de rester ensemble sans s'envoyer des piques et eux. Toute leur narration est super fake. Il y a aucune chose qui est vraiment honnête en les uns avec les autres. C'est assez... Je veux dire, à partir du moment où tout son château explose puis que t'arrives à la fin, là, ils ont enfin une vraie honnêteté où ils l'envoient chier en mode « Ben non, tu peux rien nous donner, tu te démerdes, quoi. Je vais porter plainte contre toi, je vais pas... »
Mais ça, c'était intéressant, mais tu sais, c'était comme... Il a quand même fallu, tu sais, puis... Tu sais, il a quand même fallu que il ait aucune chance de s'en sortir.
Ouais.
Edward Norton n'ait aucune chance de s'en sortir. Puis là, il a dit « Ben, la seule façon que je vais m'en sortir, c'est que vous mentez pour moi. » Qu'on dit non, là, on va pas mentir pour toi.
Ouais.
Mais parce qu'ils ont menti par le passé pour lui, parce qu'il y avait comme assez, tu sais, il y avait assez de poids dans la balance pour dire comme est-ce que ça vaut la peine de faire ce qui est moralement bien?
Ouais.
Non, je vais trop en perdre. Puis à un moment donné, c'est comme j'ai plus rien à gagner de te défendre, puis c'est sûr que tu vas pas t'en sortir sauf si on te défend, donc on te défendra pas.
Ouais.
Fait que, tu sais, la question de la moralité de ces personnages-là, ils vont rester dans l'immoralité jusqu'à la fin du film, là. Même dans cette espèce de moment-là où ils vont tous devenir là maintenant, je vais te throw under the bus, comme on dit en bon français. C'est quand même immoral.
Ah, absolument.
Parce que, je veux dire, la seule raison pourquoi tu le fais, c'est parce que...
C'est parce que tu peux plus rien gagner à rester avec lui.
Exact.
C'est leur bouée de sauvetage.
Puis au moment où est-ce qu'ils comprennent qu'il a tué deux personnes, qu'il a fait au moins une tentative de meurtre de plus, qui finalement, la personne n'est pas morte, mais qu'il a quand même tué deux personnes, qui a floué des gens, qui ont reconnu qu'il avait fait de... qu'il avait en tout cas, tu sais, qu'il avait fait de la fraude, qu'il avait fait plein d'affaires de... Mais à ce moment-là, non. Mais c'est ça. Comment t'as trouvé la scène de la Mona Lisa?
La Mona Lisa, j'ai trouvé ça un peu lourd, personnellement.
Mm-hmm.
J'ai pas non plus aimé le... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé. Disons que le plot twist où il tire dessus et puis qu'elle est encore en vie, une part de moi qui est quand même « Ok, je vous le concède parce que ça fait avancer le plot et autres, mais j'aime pas le côté où je me fais tirer dessus et heureusement, je survis parce que j'avais un petit carnet bien placé au bon endroit avec le ketchup. »
Ouais, je comprends.
C'est quand même « C'est un trope qu'on a déjà vu 3 millions de fois, là. On peut peut-être passer à autre chose. » Mais non, le côté de la Mona Lisa qui brûle et tout, bon déjà, il y a une part de moi qui est comme « Ah, brûler de l'art ah !» Même si c'est fictif et que je sais que c'est pas la pis que n'importe quoi et qu'il y a quand même une part de moi qui est toujours « irk » à ça. Puis je sais pas, c'est comme... C'est là où une part de moi qui était comme... Ça va peut-être un peu trop loin sur le côté un peu lourd du personnage qui est très con.
Ah, tu vois, moi, je l'ai perçu comme un... Tu sais, c'est un peu comme, mettons, Last Jedi.
Ouais.
Dans le sens que, tu sais, comme il y avait des choses qui étaient un peu grossières, mais qui, comme... On découche, comme ouais. Un oignon. Puis il y avait une notion de c'était comme... Je vais brûler... Ben, elle a pas brûlé littéralement la Mona Lisa, on s'entend, là, tu sais, comme elle a créé une situation où la Mona Lisa allait pouvoir brûler,
ouais.
On va le dire plus comme ça, parce que le gars, il était...
Ben,
il faisait pas attention, là, il était con, là. Puis, mais tout ça basé sur le fait que, comme, je vais faire ce geste-là désespéré, ou du moins ce geste-là qui est un énorme... Tu sais, on s'entend aussi que je comprends le fait de brûler de l'art,
ouais.
Mais c'est comme... cette œuvre-là, qui est une œuvre importante dans l'histoire de l'art, ça reste quand même, à quelque part,
ouais.
Au niveau rationnel, ça reste quand même juste une toile avec de la peinture dessus. Ça enlève rien à sa qualité, puis ça enlève rien à la valeur de l'art en général. Mais c'est que c'est comme la vie humaine que j'essaie de défendre, que j'essaie de faire rendre justice, ne se fera pas rendre justice.
Ouais.
Mais si on s'arrange pour que tu passes comme le responsable du fait que la Mona Lisa a brûlé,
ouais.
À ce moment-là, il va y avoir assez d'éléments qui vont faire que tu vas tomber.
Ouais.
Alors que le fait que tu aies enlevé des vies humaines...
Ça compte pas.
Ça compte pas.
Ouais.
Mais, fait que tu sais, je trouve que dans la notion de la critique de l'ultra-richesse ou de...
Ouais.
Tu sais, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est capable de se payer une toile avec de la peinture dessus pour la louer temporairement parce que de toute façon, le Louvre est fermé puis personne peut aller la voir. Fait que moi, je vais la posséder parce que je suis assez...
Ouais.
C'est sûr que c'est gros parce que c'est la Mona Lisa puis c'est comme... C'est iconique, tu sais.
Ouais.
Mais c'est ça. Tu sais, moi, cette scène-là, je l'ai trouvée comme... Ben, c'était un ralenti là, qui comme a duré éternellement là, mais qui pour moi représente un peu ça, cette espèce d'absurdité là de
mais,
comme
ouais. Mais c'est drôle parce qu'en fait quand tu me parlais de la Mona Lisa, je pensais pas à la scène de fin, je pensais à la scène du milieu quand il passe son temps à être en mode oui je l'ai loué, puis des fois j'enlève la sécurité, des fois je la mets, des fois je la mets pas, où j'étais comme oh c'est bon, il est ultra riche, c'est bon, t'es comme passe à autre chose. Et je pensais pas à la scène de fin quand
mais en même temps ça installe pourquoi est-ce qu'elle va elle a assez d'informations pour savoir comment la faire brûler.
C'est ça ouais, c'est vrai, c'est les moments en fait où j'étais un peu en mode ok, on insiste vraiment lourdement au fait qu'il peut faire tout et n'importe quoi. Et il claque des doigts, il chie des briques en or, c'est un peu ça l'idée dans le côté.
Mais j'ai adoré le moment, tu sais, je sais pas à quel point c'est réaliste, mais je pense que c'est réaliste là, mais tu sais, j'ai adoré le moment où est-ce qu'ils veulent débuter le meurtre et mystère.
Oh my god.
Et que Benoît Blanc, il a
fini le truc en 2 minutes. Puis écoute, moi ça m'a fait doublement rire parce que j'ai été faire, tu sais, des trucs de mystère où t'es enfermé dans une salle et
escape
tu dois ouais et tout et puis où j'étais justement en mode on en faisait un meurtre et mystère et en genre 10 minutes j'avais fini le truc et j'étais juste en train de m'énerver sur mes les gens avec qui j'étais en mode non mais c'est pas compliqué là le puzzle il est déjà là ça c'est fait ça, c'est comme ça et autres c'était comme
allez, moi je me suis fâchée dans un escape room parce que j'en ai pas fait beaucoup mais ceux que j'ai fait souvent c'est parce que je testais la salle
ouais.
Fait que j'avais le temps de finir même quand il y avait des bugs
ouais.
Puis tu vois il y en a un que j'ai pas fini. Ça m'a vraiment fâché, là. J'étais vraiment fâché de pas l'avoir fini. C'est vraiment venu me chercher. Tu sais, je suis pas quelqu'un de mauvais perdant dans la vie, mais ça, là, c'est vraiment venu me chercher de pas l'avoir fini. Puis ce qui m'a vraiment gossé, c'est que c'était pas des puzzles. Il y avait un peu d'agilité.
Oh, je hais ça.
Parce que la première affaire pour se libérer, c'était de réussir à lancer une balle sur une cible.
Ah, laisse tomber. Donc.
Fait qu'on a perdu énormément de temps juste à toucher la cible, tu sais, puis ça m'a vraiment fâché parce que je suis comme ouais. Je vais pas là pour ça.
Non.
Je vais pas là pour faire de l'agilité, je vais là pour je vais là pour
réfléchir.
Utiliser mes cellules mes petites cellules grises.
Mais c'est ça.
On a un peu divergé de notre thème principal, mais oui, effectivement.
Mais cette scène-là où il est comme « Ah, mais c'est bon, je l'ai déjà trouvé !» Et puis qui comme fait vraiment la gueule, genre « Ok, fine
!» Puis, il faut quand même le dire, ben, c'est ça, tu dis que c'est comme un nouveau classique du genre.
Pour moi, c'est un nouveau classique du genre. C'est,
Glass
c'est
Onion,
comme...
Knives Out, les deux
Les deux, je pense qu'ils vont faire... Enfin, pour moi, ils... Je veux dire, s'il continue comme ça à en faire plusieurs et tout, je vois pas pourquoi elle aurait pas sa place dans le Panthéon avec les autres, quoi. Je vois pas pourquoi il serait pas justement avec Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Puis...
Est-ce que tu penses que le fait qu'il vienne pas du monde littéraire, ça va lui enlever de la crédibilité?
Je pense pour moi que c'est plus une question d'âge.
Ok.
Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est parce que... Bon, c'est vrai que Sherlock Holmes a défini une période, Hercule Poirot a défini un genre, puis... Moi, ce que j'espère, c'est que le côté justement parodique va un peu rester tout en le restant là pour comme avoir, tu sais, un peu ce côté comme héritage à proposer. Du genre, oui, on peut le faire, mais on peut le réinventer et trouver ça rigolo, tu sais. Même si, ultimement, c'est rigolo de trouver des gens qui se font tuer moyennement, là, mais...
Ben, moi, ce que je suis vraiment curieuse, c'est est-ce que quand ils vont sortir le troisième... Parce que tu vois, comme le deuxième était très différent du troisième.
Ouais.
On dirait que... C'est sûr que si le 3 ressemble au 2, je vais être quand même... Ça va être correct.
Je vais être contente. S'il m'amène plus loin, je serai vraiment satisfaite.
Mais si on est dans un autre ton complètement différent. Ouais. Ça pourrait être vraiment fascinant là, d'avoir justement cette espèce de truc-là comme qui ressemble plus à le film Clou, justement, ouais. peut-être plus l'univers Agatha Christie-esque. Bah, puis que là, dans le deuxième, on est vraiment plus dans un genre de film... trop très contemporain, puis si le troisième nous amène dans un autre ton complètement différent, pas nécessairement, tu sais, ça deviendra jamais très lourdeau.
Parce que
là,
c'est vrai qu'entre le premier et le deux, des fois, tu réfléchis. Hein. Le premier, je trouvais qu'on pouvait encore se poser la question de à quelle période il se passait. Le deuxième, mm-hmm. t'es obligé de le voir à aujourd'hui.
Ben oui, il est super ancré dans le temps.
Il est super ancré dans le temps. Je trouve que Clou est plus proche du 2 que du 1, personnellement, pour le côté justement comédie qui est très présent dans Clou.
C'est vrai que je l'ai vu il y a très longtemps, là. Fait que c'était peut-être plus comme... Tu sais, c'était vraiment... Il y avait du punch au pied carré, là, dans le film, dans Glass Onion, là. Tu sais, contrairement à Knives Out, qui était plus comme... ça te faisait un rictus, mais ça te faisait pas rire aux éclats, mettons, ouais. Tu sais.
Non, c'est ça. Glass Onion est beaucoup plus justement parodique et autre que il va et pour moi il va sur une autre tangente de ce que peut être le film.
Mm. Mais c'est ça, je pour moi que ça maintient ce ton là, ça va être correct. Mais si ça peut aller peut-être explorer un autre genre, peut-être justement peut-être parodie plus de l'univers du film noir là, ça pourrait être intéressant. T'sais, mais garder la parodie d'une certaine façon, ça pourrait quand même être cool.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr qu'on va sûrement avoir les mêmes thèmes, là, tu sais. Puis là, il va falloir observer, est-ce que, justement, rapidement, est-ce qu'on spot tous ces ultra-riches-là, tous ces ultra-privilégiés-là, mmh. cette personne-là qui est pas privilégiée, qui sort d'un peu nulle part. Mais là, c'est ça.
Qui est un peu sa Watson, hein, tu sais, c'est un peu...
Ouais, tout à fait.
C'est souvent ça, quoi, c'est... Puis non, puis moi, j'ai hâte de voir quel sera le casting, parce que faut quand même l'avouer, à chaque fois, les choix d'acteurs sont, je trouve, particulièrement bon.
Oui, oui, surtout, tu sais, le deuxième, c'est du gros star power, là, ah, tu sais. Ouais. Dans le premier aussi, mais il y avait plus de visages qu'on voit moins souvent, là, ouais, tu sais. Alors que le deuxième, c'était gros, gros, gros cast, là, comme tu dis, là. Kate Hudson, Dave Bautista, il y avait, donc, Janelle Monáe, il y avait, voyons, là, je regarde tout ça.
Il y avait Hugh Grant.
Oui, qui fait un...
qui fait son mari.
Qui fait son mari, qui fait un petit peu du pain.
Ouais, c'est parce qu'en ce moment, Hugh Grant, j'ai l'impression qu'il fait les maris de tout le monde, là, avec le trailer de Donjons et Dragons. Je suis comme...
Mais tu vois, ça, c'était une question que je me suis posée parce que, tu sais, moi, j'avais trouvé ça intéressant. J'avais pas encore vu Glassonian, puis c'était comme, ah oui, mais tu sais, c'est un personnage ouvertement queer.
Ouais.
Puis là, je l'ai écouté, puis j'ai fait comme, oui, ouais, mais... tu sais, oui, 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 tu sais, c'est comme... Mais c'est pas nommé, tu sais. C'est correct, là, tu sais. C'est pas comme qu'il faut que ça soit hyper nommé, super grave et tout ça, comme que ça soit comme que l'accent mis là-dessus. Mais tu sais, c'est comme, OK, au final, on le sait finalement que c'est un personnage queer parce que c'est un autre homme qui habite dans son appartement qui va répondre à la porte.
Ouais.
C'est tout. Tu sais, il n'y a pas vraiment de démonstration de complicité. Je montrerais juste ça, là, mettons. Il n'y a pas de complicité, là, tu sais, ils ne sont même pas dans la même pièce en même temps. Là.
Non.
En même temps, ça se peut qu'ils ne soient pas dans la même pièce en même temps pour des raisons de production.
Probablement.
Parce que, tu sais, comme le fait que, comme, juste, ben là, je dis ça, ils ne sont pas dans la même pièce en même temps, là, peut-être que finalement, oui, là, mais il me semble que dans mon souvenir, on ne les voit pas en même
temps.
Non,
on ne les voit pas ensemble.
Parce que, mais je pense que ça peut être vraiment juste expliqué par le fait que, comme, on va mettre ta voix en post-prod. Toi, on va faire la scène où tu réponds à la porte. Toi, on va faire la scène où t'es dans le bain. Ouais. Parce que, comme, avoir Daniel Craig et Hugh Grant en même temps sur un tournage, c'est peut-être trop compliqué pour un caméo, tu sais. Je peux comprendre ça. Mais c'est ça. Tu sais, je trouverais ça peut-être intéressant que ça pourrait être vraiment cool que le troisième, ça soit avec un Hugh Grant qui a peut-être un rôle plus important. Puis que là, peut-être que ça va être Benoît Blanc résout un crime, mais a son mari qui est, comme, dans le coin puis qui est, comme, juste, comme... Yo, on a une sortie familiale où on a comme...
Tu sais, c'est déjà assez intéressant parce que regarde, les trois quarts du temps, c'est des personnes solitaires et célibataires, hein, les détectives.
C'est vrai.
Et Sherlock Holmes, il est jamais en couple. Hercule Poirot est jamais en couple. Il est plus ou moins...
Mais Columbo, il parle souvent de sa femme, par exemple.
Columbo parle souvent de sa femme, c'est vrai.
On la voit pas.
Non, on la voit pas, mais on voit son chien.
Ah, ben voilà. Est-tu comme important? Il résout-tu les crimes avec lui?
Ah, des fois, le chien, il résout des crimes. C'est un long basset-hound qui promène des fois de temps en temps. Mais il est comme, là, je promenais mon chien parce que ma femme me l'a demandé. T'es comme, OK.
mais c'est ça. Alors que là, c'est vrai qu'il est comme canoniquement, il est en couple. Puis tu sais, comme...
Ben, il y avait eu une série qui s'appelait Madame Columbo, d'ailleurs.
Ah oui?
Ouais.
C'était-tu bon?
J'ai pas beaucoup de souvenirs.
Mm.
Mais c'est ça. Mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir comme... ce côté où on lui donne une vie où...
Ouais, je comprends.
Mondaine, si je puis dire.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, je trouvais ça intéressant, peut-être que dans le troisième, il résout un crime, peut-être même du milieu. T'sais, je sais pas, mettons que son mari il a une grosse job, à gros salaire.
C'est ça.
Puis qu'il rentre dans son milieu. En tout cas, je trouverais ça cool quand même, qu'on ait introduit ce personnage-là.
Puis qu'on aille quelque part avec.
Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça pourrait juste passer pour du queerbaiting.
Ouais.
Le fait de juste comme faire comme OK, on a sparklé un peu de LGBTQ dans notre œuvre, fait que c'est ça. Mais j'ai confiance. J'ai confiance et donc on se retrouvera en 2024 donc pour un troisième opus de Knives Out et qui sait peut-être plein d'autres opus. Signé chez Netflix, peut-être pas. Est-ce que, tu sais, le succès de la série va peut-être justifier le fait de pouvoir sortir de la plateforme.
Ouais.
Mais c'est ça. Donc, Amélie, as-tu un mot de la fin?
Non. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être, puis j'ai hâte d'avoir plein d'autres enquêtes policières du genre.
Ben, surtout si il n'y a pas vraiment de police. Moi, je pense que ça serait une bonne conclusion. Les enquêtes sans les policiers, c'est super. Donc, merci beaucoup, Amélie, d'avoir été des nôtres, donc d'avoir été avec moi, là, dis-je des nôtres. C'était bien gros, c'était gros pour rien. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines pour d'autres Amazoneries. Et d'ici là, bon WrestleMania, bonne fin de journée, bonne fin de nuit, peu importe, et prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, si vous voyez un ultra riche qui veut vous donner des affaires ou whatever, méfiez-vous tout le temps. Tout le temps.